au niveau de la recherche de la vérité. Essayer de voir ce feu, cette flamme d'amour de Jésus qui veut brûler dans mon cœur et qui fait que le cœur de Jésus est incandescent. Et du coup, il est tellement incandescent qu'il peut compénétrer mon cœur du centre de mon cœur et faire que cette incandescence du cœur de Jésus soit l'incandescence de mon propre cœur. Et à ce moment-là, mon cœur est transformé en vive flamme d'amour. Simplement, ça, je dois croire qu'il nous montre simplement comment il faut faire pour raison. Il se fait environ un silence d'environ une demi-heure. Chaque jour, une demi-heure. Vous savez que du coup, comme c'est si difficile, vous voyez bien que ici, la petite apparition de Jésus qui va lui donner la communion à Mélanie, dès l'âge, elle communiait très souvent comme ça. Mais elle a été. Les responsables du catéchisme ont estimé pendant 8 ans à peu près qu'elle n'était pas digne de recevoir la première communion. C'est pour ça, c'est pas grave, je veux dire. Il y a des fois où on ne peut pas recevoir la communion. Mais à ce moment-là, on la reçoit comme elle. On la reçoit, je suis là. Il sort de son cœur, cette ronde blanche, et je le reçois. Communion mystique, spirituelle. Et je peux commencer mon oraison comme ça. Et il faut communier l'Eucharistie, de toute façon. Tandis que Saint Jean de la Croix, comme c'est pas à travers, c'est de la beauté de ce tableau surnaturel, d'une apparition, d'une donation de Jésus lui-même. Vous voyez, c'est beaucoup plus le point de vue de la peinture, de la splendeur, de la beauté dans l'ordre de la lumière. Mais Saint Jean de la Croix, c'est un autre mode de l'art artistique qui va utiliser, que l'Esprit Saint va lui donner pour s'exprimer cet amour. Et c'est le poème. Il prend un poème. C'est beaucoup plus proche de l'amour que la peinture ou l'apparition. L'apparition du côté de la lumière. Que le poème du côté de l'amour. Vous savez quelles sont les 7 formes de l'art de notre dimension humaine. On peut être artiste et génial dans la beauté dans 7 directions différentes. Vous avez le musicien, n'est-ce pas? Vous avez le peintre. Vous avez le poète. Pas ça, mais le poète, vous voyez, ça correspond en fait aux 7 dimensions de l'homme. Donc quand quelqu'un est très artiste, et en même temps très profond, pur, spirituel, authentique et véritable dans son amour, dans son cœur profond, eh bien, il sera un grand poète. Tandis que quelqu'un est très artiste, et très en quête de métaphysique, par exemple, de recherche de métaphysique, de vérité, il sera plutôt peintre. Les peintres sont toujours très fascinés par la métaphysique. Toujours. Si c'est des grands peintres, c'est des gens qui sont doués. Le poète, c'est quelqu'un qui... C'est le même art, c'est la même... dimension artistique dans l'homme, mais si le pli de ta vie humaine, c'est beaucoup plus du côté de l'affectivité pure, un amour vrai, spirituel, tu seras poète. Et c'est pour ça que c'est beaucoup mieux de regarder ça dans Saint Jean de la Croix, finalement. Et c'est pour ça, il faut lire donc Vive Flamme d'amour, qui est quelque chose de très extraordinaire. Alors Saint Jean de la Croix, c'est inspiration, c'est inspiré, hein, Saint Jean. C'est très extraordinaire. Saint Jean de la Croix est quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, est persécuté par les siens, par les frères, par les pères du Carmel, par les pères Carmes. C'est pour ça que c'est excellent si un jour vous êtes persécuté par les pères Carmes. Excellent. Parce que si vous êtes bastonné, etc., Et or, les pères carmes, c'est rare ceux qui sont persécutés par les pères carmes. Très rare. Ça se trouve une fois par génération, ça. Et alors, c'est sûr, Saint-Jean de la Croix était pris par ses frères, et que lui-même, d'ailleurs, non, il avait lui-même été le supérieur, il avait eu des jalousies, parce que c'est un saint excite la jalousie spirituelle. Il a été mis enfermé, en cellule noire, humide, un cachot, pendant longtemps, pas une semaine, 15 jours. C'est ça, on a fait durer le plaisir. Il est resté là. On le faisait sortir. Pendant que tous les frères mangeaient au réfectoire, il était à genoux. Il avait le droit de manger si on lui mettait une écuelle et il devait laper. Après la fin du réfectoire, tous les frères pouvaient le flageller. Puis on le rentrait. Il retrouvait dans le noir ses propres frères. Ça a duré des... C'est fou. Et j'en passe, n'est-ce pas? J'en passe. Sans compter... Ça, c'est beau, la charité fraternelle. Eh bien oui, très bel exemple, parce que lui continuait d'aimer ses frères. Très bel exemple, c'est ça la charité, c'est d'aimer ses frères. C'est ça l'exemple de charité. Vous voyez, tout est pur pour celui qui est pur, tout est amour pour celui qui est amour. Et Saint Jean de la Croix, lui, ne voyait rien de mal. Attends, il trouve ça merveilleux. Et à un moment, Jésus, donc, lui était apparu, bien avant d'ailleurs, un petit peu avant, disant, Jésus lui a dit, comme ça, lui a montré tout son amour, en splendeur, en feu, et il a dit, demande ce que tu veux, je te le donnerai, je te donne tout. Et il a répondu, Seigneur, fais que je sois beaucoup plus méprisé, beaucoup plus crucifié, beaucoup plus sur la croix. Alors Jésus a été un petit peu... Il a dit, bon, très bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. La fin de sa vie, hein. Donc c'est dans ce contexte que de souffrance de croix, et en même temps, n'oubliez pas que c'est dans ce contexte qu'il rentre dans la nuit obscure. La nuit de la foi. Et la nuit de l'esprit. Donc, l'angoisse est totale. Aucun secours. C'est dans ce contexte qu'il écrit « Vive flamme d'amour ». C'est de la valeur. Il n'y a plus rien. Il ne reste plus que l'aspect surnaturel. De l'amour dont on ne perçoit plus rien. Il n'y a plus d'aspect surnaturel de l'amour. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire. Alors, nous le lisons et un petit peu. Je voudrais quand même que vous sentiez que cette année, ce serait merveilleux si on savourait ça. Si un jour vous êtes dans la nuit, que vous en bavez tel le crapaud, joie, pleurs de joie, vive flamme d'amour. Enfin, je peux aimer. Parce que si tu aimes ceux qui t'aiment, les crapauds en font autant. C'est vrai, c'est si facile. Alors, ô vive flamme d'amour, ô vive flamme d'amour qui navre avec tendresse de mon âme le centre le plus profond. Eh bien, c'est vraiment le plus profond. N'ayant plus nulle rigueur, achève si tu le veux, brise la toile de cette rencontre. Vous voyez, il y a quelque chose qui sort. Et il chante. En espagnol, c'est extraordinaire, Saint Jean de la Croix. en espagnol, ça donne quelque chose. Il suffit de le chanter un peu, même si vous ne comprenez rien, ça y est, vous êtes en extase. En français, c'est un peu moins, c'est un petit peu... Nous, on a un amour plutôt style mammouth. Donc, aux cautères délectables, aux caressantes blessures, aux flatteuses mains, aux touches délicates, qui sont la vie éternelle, et qui payent toute dette en tuant de la mort, tu fais la vie. Aux flambeaux de feu, aux vous, dans les splendeurs éclatantes, de qui les profondes cavernes du sens, obscures jadis et aveugles en d'étranges excellences, chaleur et lumière donnent à l'ami. Alors voyez, à chaque fois qu'il y a comme ça un petit passage, il est inspiré. Lui, comme il est théologien, il va l'expliquer. Il va essayer de l'expliquer. Ce qui se passe dans le cœur profond de celui qui est entièrement pris dans l'amour incandescent du Christ. Dans l'amour incandescent, celui qui ne peut plus s'arrêter. Parce qu'un amour qui un jour va s'arrêter, ça prouve que ce n'était pas de l'amour. L'amour humain, spirituel et divin ne peut pas s'arrêter. L'amour ne diminue jamais. Sauf si c'est un amour de Neshama ou de Nefesh. Si c'est un amour, donc, sensible, il s'arrêtera. Si c'est un amour psychosomatique, il s'arrêtera. Si c'est un amour passionnel, il s'arrêtera. Et du reste, c'est très très mal de dire amour, parce que c'est pas de l'amour. Je suis fou d'amour de cette nana. Trois ans après, c'était pas de l'amour. L'amour ne diminue pas. Il n'y a pas de cause diminuante dans l'amour. C'est impossible. L'amour ne s'arrête pas. Donc il faudrait trouver un autre mot. Il faudrait trouver un autre mot. Que amour, lorsqu'il s'arrête, il n'y a plus de l'amour. Eh bien, il y a, à ce moment-là, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Il faut dire... Non, parce que dans l'amour vrai, il y a de l'attirance quand même. Alors, il faudrait, je ne sais pas, l'appeler autrement. Il faudrait dire néant. Au lieu de dire je t'aime, c'est dire je te néante. Je te néante. Tu peux pas savoir comme je te néante. Comme ça, elle est au courant. Hein? Je te néante. Ou alors, il faudrait appeler ça provisoire. Ah, tu ne veux pas savoir comme je te provisoire. C'est fou. Mais j'y crois à fond. Alors, je te néante, c'est l'amour psychosomatique. Hein. Et je te provisoire, c'est l'amour passionnel. Ah, je te provisoire, mais c'est fou. J'ai jamais vécu un provisoire aussi fort. Jamais. Ah, oh, puis j'ai vraiment envie de te néantiser maintenant. Hein. Parce que, c'est ça. Hein, c'est la cave et les bas-fonds. Hein, ça pisse pas plus loin, je veux dire. Pendant ce temps-là, oui, on a l'impression. Non, c'est pas... L'amour ne s'arrête pas. L'amour s'intensifie. L'amour ne diminue pas. L'amour, c'est vivant. Et donc, il ne cesse de croire. C'est une illusion pure. C'est un petit peu dommage de croire que j'aime quelqu'un alors que finalement j'ai une indifférence totale vis-à-vis de lui. Je ne regarde que ce que je reçois, que ce que je ressens, que mon plaisir, que moi.
On peut dire que quelquefois fois que ce qu'on a aimé, c'est l'image qu'on s'est faite de la personne, mmh. et non pas ce qu'était quelquefois de la personne.
Oui. C'est un peu vrai. Et quelquefois, il y a ça aussi. Alors ça, on est rez-de-chaussée. Mais l'amour, on est rez-de-chaussée. C'est un peu mieux. Mais, c'est un peu mieux. Un tout petit peu. Mais l'amour nous fait décoller. Parce qu'à ce moment-là, tu as une certaine idée de l'amour, rez-de-chaussée. Mais l'amour, c'est réel. L'amour, c'est humain. C'est l'homme qui commence à être attiré et à faire l'expérience de l'extase. Quand l'autre me fait rentrer dans l'extase. Ah! L'amour commence à devenir humain. J'ai jamais fait l'expérience de l'extase. Donc tu n'as jamais aimé de ta vie. Dans le merdant. Ça, regardez comment Saint Jean de la Croix, donc, commente, au fond, ce poème. Je vais prendre la strophe 2, la deuxième strophe. Et voir comment il, au cautère délectable, et comment il le commande, aux caressantes blessures, aux flatteuses mains, aux touches délicates, qui sent la vie éternelle, et qui paye toute dette, en tuant de la mort, tu fais la vie. Dans ce couplet, l'âme donne à comprendre comment les trois personnes de la très sainte Trinité sont celles qui accomplissent dans l'âme le travail divin d'une union d'amour. Ce travail, c'est extraordinaire. C'est les personnes qui aiment éternellement. Et qui sont tellement dans une relation d'amour éternel que cet amour devient un amour transformant. Et quand l'amour transforme, c'est un travail. Alors, il travaille mon cœur de l'intérieur. Le travail divin d'une union d'amour. Et à partir de là, la main, le côté, et la touche sont une seule chose en substance. Oui, au cautère délectable, aux caressantes blessures, aux flatteuses mains. Donc, vous voyez bien, il y a la main. C'est de l'intérieur que ça travaille. L'amour travaille en nous caressant. L'âme qui fait l'expérience de cela leur donne ses noms en tant qu'ils leur conviennent selon le fruit que chacun produit. Le cotère. Le cotère, vous savez ce que c'est que le cotère ? C'est du feu. C'est du feu. Notre soif d'amour fait qu'on est une plaie vivante. On a soif d'amour. Et l'Esprit Saint vient cotériser cette plaie de l'intérieur. Le cotère, c'est l'Esprit Saint, un feu qui cicatrise, qui guérit, qui huile, qui compense tout. C'est un feu. Le cotère, c'est le Saint-Esprit, la main. Et en même temps, c'est caressant, n'est-ce pas ? C'est une main qui... La main, c'est le Père. La main, c'est agissant. La main, c'est... Et la touche. Le toucher, c'est le Fils. Dieu qui est en vous, et quand Dieu enflamme et glorifie, et vous savez tous, quand vous avez eu cette expérience, peut-être une fois, quand vous avez fait un acte d'adoration, un acte d'amour, vous avez remarqué, peut-être, je ne sais pas, j'espère, qu'il y a quelque chose du centre de votre cœur, de vos profondeurs d'amour, qui, comme si elles étaient enflammées, enfin, comme si elles étaient brûlé. Enfin, je sais pas. Même quelquefois, même si on ressent pas la chaleur, on voit que notre cœur ne fonctionne plus normalement, que c'est du feu. C'est pas du feu, c'est de l'amour. Mais c'est... Alors, à ce moment-là, c'est l'amour lui-même qui est agissant et qui transforme mon cœur humain en incendie. Alors à ce moment-là, cette transformation montre que ce sont les personnes divines. Parce que l'amour, c'est un amour personnel. C'est pour ça qu'il y a trois aspects. C'est de l'intérieur, c'est un feu qui me caresse en me touchant avec une très grande délicatesse. Le toucher délicat, c'est le Fils. La main qui me caresse, c'est le Père. Et c'est du feu d'amour, c'est l'Esprit Saint. C'est beau, ça. De sorte que l'âme, lorsqu'elle vit cela, ne peut faire autre chose que magnifier le Père. Le Fils, magnifier, faire que l'action, l'œuvre d'amour du Père, de la main, soit grande en lui. Magnifier le Fils, faire que l'amour, si délicat de la touche, la lumière de gloire du Verbe de Dieu soit grande en lui et magnifie l'Esprit Saint pour faire que le feu, c'est-à-dire l'amour du Saint-Esprit qui transforme son cœur humain en feu, soit grand en lui. C'est ça, magnifier le Père, magnifier le Fils, magnifier le Saint-Esprit. Et alors, du coup, elle est dans une grande louange de ces trois gratuités d'amour et bienfaits singuliers qu'ils font en elle pour lui avoir changé sa mort en vie, en la transformant en lui-même. Et parce que notre amour, oui, imaginez que Saint Jean de la Croix, et à ce moment-là, il est out, knock out. Nuit totale, son cœur n'en peut plus. Et pourtant, il peut encore faire oraison. Et du coup, cette mort de son cœur est transformée en lumière, en feu, en incendie, en vive flamme. C'est-à-dire que c'est l'amour éternel, infini de Dieu, qui devient, qui prend de plus en plus la grande place à travers son cœur, dans toute la matière de son amour, de sa soif d'amour. Alors, c'est ce que vous vivez, hein, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment il le formule. La première grâce, chacun des personnes, en agissant, transformant mon cœur blessé, crucifié, poignardé, anéanti, en flamme d'amour, eh bien, il laisse un résultat, il laisse un fruit, il laisse une gratuité, une grâce. Et chacun laisse une grâce différente. La main, la touche, le feu, la première grâce. C'est une blessure caressante qu'elle attribue au Saint-Esprit. Le feu laisse une grâce. Une fois que le feu a transformé mon cœur en amour éternel, glorieux, qui ne pourra jamais disparaître, qui ne pourra qu'augmenter la fois suivante, après avoir été enflammé, et qu'il y a comme une espèce de rétraction de la flamme, il reste dans mon cœur, qui a été transformé en feu, une blessure caressante. Quand c'est un Saint-Esprit, c'est extraordinaire, c'est une espèce de feu. Et quand il se retire, il y a une blessure caressante qu'elle attribue au Saint-Esprit. C'est pourquoi elle l'appelle « cotère délectable ». La seconde est une saveur de vie éternelle. Elle l'attribue au Fils. Jésus fait une touche du centre des profondeurs de mon cœur, de mon amour très profond, de mon cœur incapable d'aimer, du point de vue de l'amour pur, éternel, vrai, incarné, réel. Il met une touche très délicate et qui se retire. Eh bien, il y a cette grâce qui reste, qui est une saveur, un goût de la vie éternelle. Et elle l'attribue au Fils. Et c'est pourquoi elle l'appelle touche délicate. C'est très délicat, parce que Jésus respecte la liberté. Il donne cette espèce d'amour, et puis elle se retire. Elle se retire. C'est très délicat, ça. Il dit pas, je te floque mon amour maintenant. C'est moi ici. Non, il se retire. Il se retire. Saveur de vie éternelle. Reviens, Seigneur. Maladin. Et une nouvelle touche. Dans la flamme de la main du Père. Dans l'amour qui transforme mon cœur. Et il faut refaire un acte d'amour. Vous voyez ça? Comme ça, Jean de la Croix nous apprend à faire un acte intérieur de charité surnaturelle. Il vaut mieux supplier Jésus d'être écrasé par la croix. Sinon, ceci, nous n'en ferons pas l'expérience. Quelqu'un qui n'a jamais fait l'expérience de l'amour, c'est le plus malheureux de tous les hommes. Et il est impossible de vivre du mystère de la résurrection si on n'est pas passé par le mystère de la croix. Il faut poignarder son ego, son concupiscible, son orgueil, son amour captatif, son amour de néant, son amour de transit. Son amour de passade, son amour baladin, son amour cinéma, son amour d'apache, de Comanche, encore mieux. J'ai reçu la visite, quelqu'un qui fonde dans ma montagne, dis-moi, je n'aime que dans mon tipi, authentique. Un tipi, vous savez, un tipi, une maison d'Indien. Oh, je suis vraiment très bien. Je suis vraiment très impressionné. Est-ce que tu pourrais m'expliquer? Oui, un tipi. Ah bon, alors je lui ai demandé de me fabriquer un tipi. Et en ce moment, cette personne est en train de me faire un tipi. Je lui dis, je voudrais quand même connaître l'amour. C'est vrai, quand les gens ne connaissent pas l'amour, c'est vraiment n'importe quoi. C'est des irresponsables. Ils perdent leur temps. Et à la fin de leur vie, ils ont eu une vie nulle. Or, sur la terre, si vous voulez, on est là pour que l'amour grandisse, s'intensifie. C'est seulement avec le temps et les actes suprême, d'amour incarné, vrai, réel, humain, à travers le corps, mais le cœur humain, et c'est ce véritable amour éternel qui flambe en nous. Ça ne peut qu'augmenter en nous. Et lorsque nous passons du temps à l'éternité, ça y est, notre degré d'amour est fixé. Vous savez bien que quand on rentrera dans la vision béatifique, notre degré d'amour n'augmentera plus. Il ne peut augmenter que dans cette vie. Notre degré de gloire, éternellement, nous aimerons au ciel avec le même degré d'amour que celui que nous avons eu sur la terre. À la fin, ça faut demander à vivre le plus longtemps possible. Mais il vaut mieux vivre 10 ans en faisant des millions d'actes d'amour que de vivre 150 ans en ne faisant que 10 actes d'amour. Donc c'est pas le fait de durer longtemps qui fait qu'on aura une charité plus grande. Non. C'est le fait qu'on décide de rentrer dans un amour, un amour éternel, cauter délectable, caressant de blessure. La seconde est un goût de vie éternelle qu'elle attribue au Fils. Et à partir de là, elle l'appelle touche délicate. Le troisième est, vient de ce qui la transforme entièrement en lui-même. L'amour transforme mon amour entièrement en Dieu lui-même. Amour. Et ceci est la dette. Avec quoi l'âme se trouve bien payée. Une grâce, toutes nos dettes, tout est complété. Tout ce qui nous manque dans l'amour est là. Et cette grâce est attribuée au Père, et à cause de cela, elle l'appelle flatteuse. Ah, je suis flatté. Je suis flatté parce que j'ai tout donné. J'ai accepté mon néant, mes limites, ma croix, quoi, d'être... de reconnaître que mon amour n'est pas dans la bonne direction, quoi. Et que du coup, je laisse à Dieu de faire lui-même ce travail de l'amour en moi et de rentrer dans ce grand mouvement de l'amour. Alors à ce moment-là, à un moment donné, l'amour transforme mon cœur, vive flamme d'amour, et je suis flatté, quoi. À partir de ce que j'ai fait qui est cacaesque, eh bien, lui-même, de Dieu, qui est là. Et cette grâce est attribuée au Père. Et bien qu'elle les nomme ici toutes trois à cause des diverses caractéristiques de leurs fruits, pourtant, elle parle seulement à une seule d'entre elles lorsqu'elle dit de la mort. Tu as fait la vie. Parce que toutes les trois opèrent dans un seul acte. Et est ainsi qu'elle attribue tout à une seule et tout à toutes. Ça, c'est l'introduction. C'est l'introduction au couplet, au côté délectable, aux caressantes blessures, aux flatteuses mains, aux touches délicates. Vous comprenez, vous ne pouvez pas lire les poèmes de Saint Jean de la Croix. Vous ne pouvez pas lire les premiers messages à la croix si vous ne le vivez pas. C'est impossible. Il faut laisser ce mouvement, ce feu d'amour. Il faut en faire l'expérience et laisser cet acte de charité s'emparer de tout votre amour. Qui est plus que de l'amour. Qui est plus que cet incendie d'amour. Et puis vous voyez, vous reconnaissez ce feu. Vous reconnaissez cette touche délicate. Vous reconnaissez cette main, cette caresse. Alors vous reconnaissez que derrière la touche délicate, c'est le Verbe incarné. Derrière le feu, l'amour, c'est l'Esprit Saint. Derrière la caresse du travail, l'amour, c'est le Père. Et du coup, vous apprenez à reconnaître le Père, le Fils de l'Esprit Saint. Et puis vous recevez le fruit. Et après, vous pouvez recommencer à lire Saint Jean de la Croix. C'est pourquoi il reprend chacun des aspects. Et en effet, au côté délectable. Il va reprendre le point de vue du côté délectable, l'Esprit Saint, sur trois pages. Trois pages pour reconnaître ce feu transformant de l'Esprit Saint qui enflamme mon cœur et transforme en amour éternel. Naturel. Ce côté, ainsi qu'il a été dit, est ici le Saint-Esprit parce que, comme dit Moïse dans le livre du Deutéronome, notre Seigneur Dieu est un feu qui consume. Et il faut l'entendre comme étant un feu d'amour. comme la force, de cet amour est infini. On ne peut pas estimer à quel point il peut consumer et transformer en lui-même l'âme qu'il aura atteinte en la touchant. Quand le feu touche l'âme, l'âme est incarnée en nous. Donc le corps brûle aussi. Et toutefois, donc on ne peut pas estimer à quel point il embrase et absorbe chacune, les uns plus, les autres moins, selon qu'il les trouve disposés. Et oui, quelquefois on est plus ou moins disposé à être enflammé par l'Esprit Saint. Et ce, tout autant que bon lui semble, et comme et quand il le veut. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est l'Esprit Saint. Ouais, il est en train de décrire ici ce qu'on appelle l'esprit de sagesse. Bienheureux et pacifique, l'union à Dieu dans l'amour, est flamboyante, totale, savoureuse, caressante et délicate. Esprit de sagesse. Et comme c'est un feu d'amour infini, quand il veut toucher une âme un peu étroitement, c'est-à-dire de très très près, de très très près. C'est un terme un petit peu de l'époque, hein, du 16e siècle, étroitement, hein, de très 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 près. L'ardeur de l'âme monte à un si haut degré d'amour qu'il semble à l'âme qu'elle brûle plus fort que toutes les ardeurs du monde. Bon, remarquez bien, hein, je suis sûr que vous reconnaissez, de toute façon. Vous reconnaissez, quand à chaque fois vous faites oraison, c'est ça qui... C'est pas un problème pour vous. Je reconnais. C'est l'ardeur du monde. C'est pourquoi elle appelle dans cette union le Saint-Esprit Cotère. Parce que comme le feu d'un Cotère est plus ardent et plus véhément et fait plus d'effet que les autres feux, ainsi comme l'acte de cette union provient d'un feu d'amour enflammé plus fort que tous les autres, c'est pour cela qu'elle l'appelle Cotère. Vous n'avez qu'à calculer, hein. C'est un Cotère. Le degré de température est multiplié par rapport à une flamme, est multiplié par 30, 40, je crois. Ça dépend le métal. Et lui, Saint François d'Assise, il ne rajoutait qu'un mot qu'à chaque fois qu'il avait eu une croix terrible. Et quand il a rajouté « Béni sois-tu, frère, feu », c'est parce que le cardinal, préfet de la congrégation des religieux, lui avait demandé, au nom de la sainte obéissance, de se faire soigner les yeux, qui était un petit peu malade, un peu mal aux yeux, par les médecins. Les médecins ont commencé pendant une semaine à lui faire un traitement à la chaux vive. Puis après, ils ont vu que ça marchait pas, et il avait encore plus mal aux yeux. Alors du coup, ils ont pris des cotères, c'est-à-dire ce morceau d'acier rouge. Et puis, et alors, il disait, attendez, et puis, je baisserai la main, vous pourriez y aller. Et alors, il baissait la main, il le faisait, et il disait, béni sois-tu, frère. C'est de là que ça vient, le cantique des créatures. C'est à cause de ça. Et chaque verset, c'est quelque chose d'équivalent, cantique des créatures. Donc, dites pas, cantique des créatures de Saint François d'Assise, c'est génial, quelle beauté, c'est quasiment l'orgasme, mais pas du tout. Béni sois-tu, frère. C'est à travers la croix. Hein, que c'est... Et là, vous avez la même chose avec Saint Jean de la Croix. Il faut toujours faire le parallèle avec Saint François d'Assise et Saint Jean de la Croix, parce que Saint François d'Assise, c'est l'esprit de crainte. Et Saint Jean de la Croix, c'est l'esprit de sagesse, la sagesse. l'image d'amour, vive flamme d'amour. Les deux, c'est une espèce de... Les deux sont des poètes. C'est les deux saints de l'amour, hein. C'est pourquoi il appelle en cette union l'Esprit Saint Coter. Et parce que, à ce moment de cette expérience d'amour, ce feu divin tient l'âme toute transformée en lui-même. Non seulement elle sent le Coter, hein, mais aussi elle-même, tout entière, est convertie en un Coter de feu très ardent. Donc ton cœur est transformé en Coter, tout ce que tu touches. Brûle tous ceux qui sont autour de toi, tes frères, du réfectoire, du chapitre. Si vous êtes marié, mon époux ou mon épouse. Très bien, mon épouse. Parce que l'épouse. Cruelle, une épouse, une cruauté extraordinaire. C'est extraordinaire, ce que Dieu a prévu dans la femme comme trésor de cruauté. C'est vrai. Et vous n'en faites pas l'expérience puisque vous n'êtes pas marié avec une femme. Vous êtes marié avec une femme? Ah, moi j'espère que non. Alors. Mais exprès, c'est pour que justement on puisse vivre d'un amour qui soit un amour qui corresponde à cette espèce d'amour impérissable. Alors, que l'amour du Saint-Esprit a pris mon cœur, l'a enflammé, j'aime celle qui a été, j'allais dire, l'objet de mon réveil dans l'ordre de la charité, l'amour des ennemis, l'amour de celui qui me fait du mal, charité agapée. Un amour qui dépasse tout. À ce moment-là, mon cœur est transformé en Coter et il vient guérir cette cruauté dans un amour plus grand encore. Magnifique. Et c'est une chose admirable et digne d'être racontée. Et ça, j'en la crois. Même si ce feu de Dieu soit si fécond, si efficace pour consumer à une très grande vitesse, qu'il consumerait plus facilement 1000 mondes et 1000 univers, que le feu d'ici-bas n'allumerait une poignée d'étoupes. Vous voyez, vous avez déjà vu une poignée d'étoupes qui s'enflamme. Vous avez jamais vu ça? Une poignée, c'est dans les anciens temps qu'on allumait les poignées d'étoupe. Ah, vous avez jamais vu ça? Oui, c'est peut-être les gens un peu plus âgés ont vu ce que c'était. L'étoupe. Hein? Vous voyez ce que c'est cette poignée d'étoupe? C'est quelque chose, vous savez, vous mettez. L'étoupe, c'est une espèce de truc, bon, je sais pas, je pourrais pas vous dire. C'est très très, oui, oui. Et alors. Oui, tout à fait.
Pendant la guerre, on en a fait pendant la guerre.
Vous frottez comme ça. Ah mon Dieu. Vous échauffez un peu en frottant, je ne sais pas, du souffle, je sais pas quoi. Et d'un seul coup, cette étoupe.
Pendant la guerre, à la campagne.
C'est comme ça que vous. Avec un peu de chaleur. Ou alors un petit étincelle de silex suffit à enflammer à une très grande vitesse. Eh bien, voilà l'image qu'il donne. Oui, c'est admirable. Et il faut que je vous l'explique, que ce feu de Dieu est d'une telle efficacité pour brûler avec une très grande vitesse, une vitesse telle qu'il consumerait plus facilement 1000 univers que l'étincelle d'ici-bas pourrait enflammer une poignée d'étoiles. C'est extraordinaire. Le feu de la charité, quand on fait un acte de charité qui est sous la motion, dans l'obéissance à l'Esprit Saint, ça fait et 1000 univers sont enflammés, c'est-à-dire cet univers, et puis 1000, c'est-à-dire ce qui dépasse l'univers, l'Immaculée Conception. À une vitesse immédiate, dans un seul instant, tout est enflammé, à partir de votre cœur. Et il ne consume pas, néanmoins, pourtant ça ne vous détruit pas. Et il ne détruit pas l'âme dans laquelle il brûle de cette manière. Et encore moins, il lui donne d'être mécontent, fâché. Mais plutôt, dans la mesure où la force de cet amour est si grande, il la déifie et l'âme est dans une délectation brûlante, ardente, à l'intérieur d'elle-même et avec une suavité surabondante. Oui, c'est bien si de temps en temps vous dites, est-ce que je viens de faire, faites un acte de charité. Seigneur, je t'aime, tout mon cœur, toute mon âme, toutes mes forces. Puis après, vous relisez, en voyant si c'était vraiment un acte de charité surnaturel, regardez si ça correspond. Tiens, pas encore. Vite, vous recommencez un acte de charité. Puis vous relisez. C'est un manque de conscience, c'est un discernement. Mais c'est vrai que c'est ça, ça se passe. Hein. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe, mais seulement, vous ne le percevez pas au début, parce qu'on est grossier. Vous ne pouvez pas faire des blagues. Mais c'est ça. Et à mesure que vous le recommencez, vous le percevez. Vous percevez l'amour. Vous commencez à l'éprouver. Vous commencez à le reconnaître. Vous commencez à l'entendre. Vous commencez à être capable de vous ruiner. Capable de le laisser agir. Capable d'obéir à sa motion, à sa touche, à sa flamme. C'est pas qu'il n'y était pas. C'est que nous ne sommes pas assez délicat du point de vue du cœur pour pouvoir le percevoir. Mais très vite, on finit par le percevoir. Mais il faut beaucoup prier dans le silence de l'amour où tout en toi est crucifié dans l'obéissance à la volonté du Père. Si je sors de la volonté du Père, l'amour pour moi n'existera pas. Et je serai gros comme une citerne de purin. Et cela arrive ainsi à cause de la pureté et de la perfection de l'esprit dans lequel il brûle. Le point de vue spirituel, parce que j'ai adoré. C'est en fonction de l'adoration, de la pureté de l'adoration, que je commence à percevoir ces flammes de l'intérieur. Ainsi que nous voyons qu'il est arrivé dans les actes des apôtres, puisque au chapitre 2, verset 3, ce feu arrivant avec une grande véhémence embrasa les disciples. Et les disciples, comme l'explique saint Grégoire, furent brûlés intérieurement d'un amour très suave. Et c'est ce que l'Église donne à expliquer lorsqu'elle dit à ce sujet, le feu descendit du ciel, advenit ignis divinus. Le feu descendit du ciel, non comburens, sed illuminans, non en consumant, mais en éclairant. Parce que, comme la finalité que Dieu prétend en cette manière de communication d'amour est d'élargir, d'agrandir et d'intensifier dans l'amour l'âme, il ne la fatigue pas, il ne l'étreint pas, mais il la délecte intérieurement et la dilate. Dilatation, mais avant la dilatation, délectation. C'est pas une étreinte de l'extérieur pour prendre l'intérieur. C'est une délectation caressante, enflammée, enflamme comme un feu d'étoupe. Mille univers. Métaphore d'univers, là. Et c'est dans notre pouvoir que de réveiller cet amour-là. On peut le faire. On peut le faire. Quand on veut, si on est en état de grâce. Je rajoute immédiatement, si on est en état de grâce. C'est-à-dire si on a bien fait une bonne confession, une bonne communion, and come back, et qu'on est revenu. À ce moment-là, on a ce pouvoir. Il ne la noircit pas, le feu normalement noircit, n'est-ce pas ? Il ne la noircit pas, il ne la réduit pas en cendres comme le feu fait avec le charbon, mais au contraire, il l'éclaircit, l'illumine, l'enrichit, et c'est pourquoi elle dit que c'est un coltère délectable. On devient transparent. Et ainsi, l'âme heureuse, qui par un grand bonheur arrive à ce côté, savoure tout. Savoure tout. On t'injurie. Oh, merveille. On te crache. Un amour plus grand est possible. On te poignarde, on te trahit. Merci Seigneur. Allégresse et joie. Et ainsi, l'âme heureuse qui, par un grand bonheur, arrive à ce côté, savoure tout. Et si tu dis, mais c'est de la haine qu'il a, ce mec. Pourriture. Menteur. 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 Ah ouais, c'est toi qui n'aimes pas. C'est un instrument d'amour. Elle goûte tout. Elle fait tout ce qu'elle veut. Et elle ne veut que de l'amour. Elle prospère. Et nul n'emporte le dessus devant elle. Rien ne la dépasse. Rien ne la touche. Nada. Ça, je la crois toujours. Rien ne touche mon amour victorieux de tout. Si on te frappe sur la joue droite.
C'était mon aumônier là, quand j'étais en classe de 3e, était mariste alors. Il avait toujours un béret, il rentre dans la classe en faisant
enfin, on frappe sur la joue droite. Que tu fais? Il faut tendre la joue gauche. Très bien. Bon, maintenant le son, c'est qu'est-ce que tu fais après? Jésus ne l'a pas dit.
Et bien, tu redemandes. Tu redemandes beaucoup d'amour. Porte le dessus devant elle, rien ne la touche. Parce que c'est de cette âme que l'apôtre dit, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, que l'homme spirituel discerne tout. Et lui n'est discerné par personne. Celui qui aime, celui qui aime vraiment, personne ne peut discerner cet amour en lui. Mais lui discerne tout. Discerne tout amour. Et ceux qui ne sont pas dans l'amour sont incapables de voir où se trouve l'amour. C'est extraordinaire ça. L'homme spirituel discerne tout. et lui n'est discerné de personne. Et encore, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, le Saint-Esprit recherche tout, jusque dans les plus grandes profondeurs de Dieu. On discerne jusque dans les profondeurs de Dieu. Toutes les profondeurs du mystère de Dieu, on les voit. Dépasse tout ce qu'on peut imaginer et comprendre. Mais on le voit et on le comprend. Parce que le propre de l'amour, c'est de rechercher avec une dilection tous les amours de celui qu'on aime. Ô grande gloire de vous autres, âmes qui méritez d'arriver à ce feu souverain. Je répète, ô grande gloire, ô grande gloire de vous autres, qui méritez d'arriver à ce feu souverain, lequel, puisqu'il a une force infinie pour vous consumer et pour vous anéantir, c'est une chose sûre et certaine que, s'il ne vous consume pas, il vous consomme. Consomme, vous voyez, consommation. S'il ne vous consomme pas, il vous consomme immensément en gloire. Immensément en gloire. Par ce feu, la grâce est consommée. En gloire. Ô grande gloire de vous autres. Oui. Oui, parce que l'amour, nul n'emporte le dessus de son frère. Et rien ne la touche. Les miasmes du temps. Puisqu'il a une force infinie pour vous consumer et anéantir. C'est une chose sûre et certaine que ne vous consumant pas, si vous consumez, vous êtes supprimé. Il vous consomme immensément en gloire. Ne vous étonnez pas que Dieu conduise quelques âmes hautement jusqu'à ce point, puisque le soleil se singularise à produire quelques effets admirables. Et le Saint-Esprit le dit lui-même, Ecclésiastique, chapitre 43, verset 4, il embrase les sommets des montagnes, c'est-à-dire les saints, de trois manières. Et puisque ce cotère aussi est aussi immensément délectable qu'il a été décrit, comment pouvez-vous penser que l'âme qui sera touchée par lui devra être consommée? Celle-ci, ne pouvant vous l'expliquer, ne peut pas le dire. Mais elle s'arrête avec une estimation qu'elle fait dans son cœur, dans l'exaltation qu'elle en fait en sa bouche. Et elle ne peut dire qu'une seule chose. Oh, cotère délectable. Deux mots de Saint Jean de la Croix. Oh, cotère délectable. Ainsi décrivant un aspect de l'acte de charité dans l'obéissance de sa geste. Et puis, vous voyez bien que je voudrais, à travers ça, quand on lit tout ça, si vous êtes tout seul, vous lisez Saint Jean de la Croix. Mais vous voyez bien qu'il faudrait peut-être presque à la limite que vous mettiez un magnétophone devant vous. Mettez un record, enregistrement, et vous parlez. Vous essayez de le dire, de le lire en le vivant. Comme si vous parlez. Et vous parlez, je signale que vous avez le droit de le faire avec une charité fraternelle, étonnante, si je vais vous adresser à tous ceux qui ne le savent pas encore et qui voudraient l'entendre.
Les âmes du purgatoire. Elles n'ont jamais entendu, ils ont perdu leur temps. Ils n'ont jamais voulu entendre ça, ils n'ont jamais vu jamais d'autres choses à côté. Tu comprends, t'avais des trucs en plastique à la vanille, alors bon. Et c'était. Alors, je sais pas. Alors, ils sont au purgatoire. Alors, ils attendent d'entendre. Qu'est-ce que c'est que l'amour ? Au purgatoire. Et ils sont des millions à t'entendre. Tu peux ouvrir par la charité fraternelle toutes ces écluses des âmes du purgatoire et devant ce parterre, cet auditoire. Tu prends ton magnéto, tu prends ton micro, tu prends ton digital. Et tu lis dans le de la croix en le vivant. Et comme les pauvres, ils rentrent dans la justification, la vision béatifique. Parce qu'on le vit avec eux. Et c'est la charité fraternelle qu'on fait ça. Pour vivre, vous voyez bien, c'est comme ça la méditation. Il faut faire ça. C'est le premier apostolat de la charité, ça. Alors au ciel, vous allez vous trouver avec une immense allée pour faire rentrer dans la gloire de la vision béatifique. Des centaines et des centaines de milliers, millions, milliards, je ne sais pas, de gens qui sont assis à cause de vous. C'est extraordinaire, ça. Tu sais pourquoi ? Oui, parce que j'ai pris un micro, j'ai pris un magnéto. Et j'ai parlé tout seul à des âmes qui attendaient ça. À la création, à l'univers, aux plantes, aux fleurs, à tout le monde végétal, à toutes les étoiles. Je m'adresse à eux et mon cœur est transformé en cotère. Délectable. C'est un pouvoir que j'ai. Le pouvoir du Verbe. Animé par le feu de l'amour. Et si vous ne savez pas faire oraison, faites ça. Très belle oraison. Il n'y a que Jésus, là. Il n'y a que l'Esprit Saint quand vous faites ça.